Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Pongo Massimo.
À la une, la confirmation de Juliana Lumumba comme candidate de la RDC au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Le chef de l'État l'a officiellement présenté hier à la Cité de l'Union africaine devant tout le gouvernement. Fin du ramadan aujourd'hui pour les fidèles musulmans. À cette occasion, l'imam urbain de la communauté musulmane au Manima appelle tous les fidèles à continuer de prier pour la paix dans le pays, condition nécessaire pour le développement. Vous suivez Cheikh Akanda au bois à Mouigny. Les intervenants du dialogue entre Congolais ont débattu hier sur la détérioration de la situation sécuritaire en Ituri, une situation que le caucus des parlementaires de cette province et la société civile dénoncent. D'un côté, on s'oppose aux attaques meurtrières attribuées aux ADF, de l'autre, on accuse les troupes ougandaises venues en renfort de passivité. Madame, Monsieur, bonjour. Juliana Lumumba, désormais candidate de la RDC au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Le chef de l'État l'a officiellement et solennellement présenté hier jeudi, et c'était à la Cité de l'Union africaine ici à Kinshasa. Par cet acte solennel, le président de la République, Félix Tshisekedi, engage tout l'appareil diplomatique du pays derrière Juliana Lumumba. Cette désignation traduit aussi, selon les organisateurs, l'ambition renouvelée de Kinshasa de peser davantage dans les instances internationale et de porter une voix africaine forte au sein de l'espace francophone. Notez que la première ministre et l'ensemble des membres du gouvernement de la RDC ont assisté à cette cérémonie tenue dans une salle à la Cité de l'Union africaine. En rapport toujours avec le gouvernement, sachez qu'il a été interpellé par la population de Guadolité. Il a organisé une grande marche populaire pacifique mardi dernier dans cette ville du nord Ubangi pour manifester son mécontentement face à l'inaction du gouvernement central. Et le député national Donge Yemo Mobutu s'implique à cette demande de la population. Il soutient donc l'action de la société civile du nord Ubangi qui a organisé cette marche. Cet élu de la circonscription de Guadolité estime que les doléances de la population sont bel et bien fondées. Selon ces députés nationaux, plusieurs rapports de vacances parlementaires adressés au gouvernement central ont toujours mis un accent en particulier sur les revendications de la population à la base. Mais son constat est amer, la réponse du gouvernement ne suit pas directement. Dongoye Momobutu plaide ainsi pour la prise en compte du contenu du mémorandum de la société civile du Nord Ubangi qui demande la construction des infrastructures routières, la réhabilitation de l'aéroport de Moanda à Guadolité et la construction des universités promises par le chef de l'État. Il est ici au micro.
On se rend compte que le gouvernement central ne tient vraiment pas en compte les rapports des vacances parlementaires que nous ramenons chaque fois à notre bureau et qui essentiellement doivent constituer le socle de notre budget. Dans les rapports des vacances parlementaires, on trouve vraiment, on décèle les besoins réels, les desiderata et les attentes de la population qui ne demande que ces attentes soient accomplies et réalisées dans leur milieu respectif. Il n'y a pas grand commentaire à faire si c'est celui de demander à Madame la Première Ministre de prêter une oreille attentive à la demande de la population du Nord Ubangi exprimée à travers la société civile. Et aussi, on demandera aussi au président de la République, qui est garant du bon fonctionnement des institutions, de s'impliquer. Nous espérons que la population peut garder son calme et les autorités compétentes et les décideurs trouveront une voie favorable pour satisfaire tout le monde.
Affaire Modeste Baatiloukwebo, l'heure est aux réactions au lendemain de sa démission au poste de deuxième vice-président du Sénat. Entre désolidarisation au sein de la classe politique et inquiétude exprimée par certains acteurs de la société civile, cet épisode relance le débat sur la liberté d'expression au sein de la majorité. L'Union sacrée de la Nation prend acte de cette démission et annonce la désignation imminente d'un candidat à sa succession. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué de son secrétaire permanent publié hier jeudi à Kinshasa. Mais au-delà de la controverse, quel est exactement le rôle du deuxième vice-président du Sénat? Réponse avec Rassam Sati, notre permanent au Parlement.
Dans la classe politique, plusieurs acteurs, y compris au sein de sa propre famille politique, se sont désolidarisés des prises de position de Baatiloukwebo. Certains sénateurs et députés estiment que ces déclarations, notamment sur la révision de la Constitution, n'engageaient pas leur regroupement et appellent à en tirer des conséquences politiques. Du côté de l'opposition et de la société civile, ce sont plutôt des inquiétudes qui s'expriment. Certains acteurs dénoncent un climat politique peu favorable à la liberté d'opinion, regrettant que des positions divergentes entraînent des sanctions politiques. Au-delà de ces réactions, cette démission met en lumière le rôle du deuxième vice-président du Sénat. Au sein du bureau, il est notamment chargé du contrôle parlementaire, des relations avec certaines institutions, dont la Cour des comptes et le Conseil économique et social, de la suppléance du premier vice-président en cas d'absence et de la coordination de certaines activités administratives, ainsi que du suivi des travaux parlementaires. En tant que membre du bureau, il contribue également à veiller au respect du règlement intérieur et au bon déroulement des travaux au sein de l'hémicycle.
Fini le ramadan pour les musulmans du monde entier. Après 30 jours de jeûne et prière, il clôture ce vendredi 20 mars le mois de carême. À Kindou, l'imam urbain de la Koumima, la communauté musulmane au Manima, remercie Dieu et tous les musulmans pour avoir terminé en paix ces moments de sacrifice. Cheikh Akanda Abouamouini a par cette occasion exhorté ses pères qui fêtent l'Aïd el-Fitr de partager avec les démunis et surtout de continuer dans cette atmosphère de prière qui les a caractérisés tout au long de ce mois. Également de prier, et particulièrement pour le pays. On écoute Cheikh Akanda Abouamouini au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes aujourd'hui la fin du mois de Ramadan, 1447 Hijriya. Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu pour avoir commencé en toute quiétude et nous touchons à sa fin en toute quiétude. Nous implorons à tous les musulmans en général qui étaient en train d'observer ce mois de Ramadan, accompagnés de la prière, de continuer avec ce même élan en partageant comme ils l'ont toujours fait, parce que pendant ce mois de Ramadan, on était en train de partager avec tout le monde, surtout avec les démunis. Donc la journée d'aujourd'hui est consacrée, selon les principes du Saint-Prophète, à partager avec les démunis, les veuves, les orphelins et consorts. Et par cette même occasion, nous pouvons demander à tout musulman de continuer à prier pour notre pays afin que la paix revienne, pour les autorités qui sont en train de se battre nuit et jour pour la recherche de la paix et pour toute la communauté en général, parce que sans la paix, aucun développement ne peut être possible. Nous vous souhaitons ensuite une très bonne fête de Eid al-Fitr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Projet conjoint RDC, Nations Unies et Banque mondiale, une réalité à Kinshasa. Il a été lancé mardi dernier dans la capitale. Ce projet vise à renforcer la protection sociale et promouvoir l'accès à un travail décent. En plus, il soutient les priorités du gouvernement en matière de création d'emplois, de valorisation du capital humain et de réduction de la pauvreté, conformément au plan national stratégique de développement. D'autres précisions avec John Chibobwa.
Financé par le Fonds conjoint pour les objectifs de développement durable, ces nouveaux programmes visent à bâtir des passerelles solides entre la protection sociale non contributive et contributive, à élargir la couverture de ces dispositifs. L'initiative ambitionne également d'accompagner les personnes exposées à la précarité vers des opportunités économiques plus stables, productives et durables. Peut-on lire dans un communiqué parvenu à notre rédaction? À cet égard, l'initiative que nous lançons aujourd'hui constitue une étape importante. Elle vient renforcer les efforts engagés par le gouvernement pour promouvoir une croissance inclusive, soutenir les conditions économiques nécessaires et créer davantage d'opportunités pour notre jeunesse, a déclaré Guylaine Nyembo, ministre du Plan et de la Coordination pour le Développement. De son côté, Madame Teba Soumano, directrice du Bureau international du travail en RDC, a, au nom du coordonnateur des résidents des Nations Unies en RDC, réaffirmé l'engagement du système des Nations Unies à soutenir les gouvernement afin d'assurer une meilleure coordination des interventions des partenaires et de réduire la fragmentation des sous-secteurs de l'emploi et de la protection sociale. Dans ces mêmes documents, le gouvernement réaffirme son engagement à agir de manière concertée avec les partenaires nationaux afin de soutenir une mise en œuvre coordonnée du programme et accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable.
Les prix des produits pétroliers revus à la hausse, c'est ce qui ressort de la réunion technique tenue par le comité de suivi des prix de produits pétroliers, CSPPP. Une réunion consacrée justement à la révision de la structure de prix. Le litre du gazole, par exemple, est passé de 1,70 à 2,43 dollars américains et le litre d'essence, qui sondait à 1,60 dollars, s'achète à 2,08 désormais et le tout est contenu dans un communiqué publié mercredi par le ministère de l'Économie nationale. D'autres détails avec vous, Blaise Oshindani Kambala.
Cette décision intervient dans un contexte international marqué par la hausse des prix du pétrole, le baril étant passé de 62,5 dollars à 103,5 dollars américains, entre janvier et mars 2026. Depuis les réformes amorcées en juillet 2025, les entreprises minières ne bénéficient plus de la subvention de l'État et s'approvisionnent à la vérité des prix. Le président de la Commission des hydrocarbures de la FEC au Katanga, Joseph Twite Maloba, revient sur la motivation de cette hausse.
Nous avons effectivement répondu à l'invitation de VEPIM concernant notre secteur d'activité. Personne n'ignore l'augmentation des carburants sur le marché mondial et cette augmentation perturbe les approvisionnements dans la partie du Sud. Et avec le VEPIM et les comités de suivi des prix des produits pétroliers, nous avons révisé la structure d'abord des sociétés minières parce que ces sociétés doivent payer le carburant à la vérité des prix.
Le taux d'échange appliqué est celui de la Banque centrale du Congo BCC, en vigueur la veille de la mise à la consommation, rappelle le communiqué.
La situation liée à la grève des chauffeurs connaît une évolution positive à Kinshasa. Vous l'avez sûrement remarqué, en tout cas pour ceux qui sont à Kinshasa, les véhicules de transport en commun en privé sont de plus en plus visibles dans la ville depuis hier jeudi. Et pour cause, à l'issue d'une réunion tenue mardi dernier avec le ministre provincial du transport, un compromis a été trouvé entre le gouvernement provincial et l'association des chauffeurs du Congo. Selon le président de l'ASECO, Bienvenue Kakoulé, les revendications des chauffeurs ont été prises en compte et certaines mesures sont déjà appliquées. Il affirme que les tensions se sont apaisées après la décision de retirer de l'opération de contrôle des documents de bord certains agents accusés de tracasserie, notamment ceux du service de salubrité qui s'étaient joints au contrôle routier. Cette mesure a permis de calmer la situation et d'ouvrir la voie au dialogue, assure Bienvenue Kakoulé. En conséquence, la décision de lever pleinement la grève a été actée. Les chauffeurs ont repris leurs activités, marquant ainsi le retour progressif à la normale dans le transport en commun. On écoute Bienvenue Kakoulé, président de l'ASICO, au micro de Nancy Atambo.
La suite, ça a bien évolué parce qu'il y a même le service là de la DSPC qui est dirigé par la colonelle Mimi. On a suspendu ses activités sur la chaussée. Voilà, ça a quand même apaisé le tension. Et puis d'autres recommandations aussi, il est en train d'y travailler. La décision était que l'arrêt du travail était levé. Tout et chacun revenir à ses activités. Nous, étant que les représentants, nous avions porté toutes les revendications sur la table. On est en train d'aligner point par point. On ne peut pas tout résoudre du coup. C'est en train d'y aller aussi méthodiquement au ciel. Dans tout ça, on peut retenir que nos revendications ont été admises et déjà en application. Aujourd'hui, au moins à 45%, nous pouvons dire même à 50%. Les propositions est que il va regarder d'abord, de prime abord, pour réglementer chaque service qui est sur la chaussée. Y mettre la discipline afin que tout et chacun reste, afin qu'il avait été confié comme mission et qu'il le fasse d'une manière professionnelle.
Place à présent à ces chiffres. Plus de 3000 cas de violences sexuelles basées sur le genre ont été enregistrés au cours du dernier semestre de l'année dernière dans la province de l'Ituri. Des chiffres jugés en deçà de la réalité sur le terrain, selon le constat fait par la coordination provinciale du projet STAR-RDC. Ce projet a lancé hier jeudi à Bounia la deuxième phase de son programme. Doté d'un financement de 3 millions de dollars américains de la Banque mondiale, ce projet vise à renforcer la prise en charge des victimes en Ituri, ainsi que dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Plusieurs responsables d'organisations humanitaires, de services étatiques, d'agences du système des Nations Unies ainsi que des organisations locales ont pris part à cette cérémonie marquant le démarrage de la deuxième phase du projet. Selon les partenaires d'exécution, les chiffres avancés restent largement en dessous de la réalité. De nombreuses victimes ne sont pas encore identifiées, notamment celles qui n'ont pas été informées à temps ou celles vivant dans des zones difficiles d'accès en raison de la sécurité liée à la présence de groupes armés. Patrick Makaya reconnaît que la première phase n'a pas permis de couvrir tous les besoins.
Le gap est énorme, très énorme dans la province de l'Ituri. Les gens qui n'étaient pas au courant alors qu'ils vivent ces cas-là, ils ont des séquelles, ils ont des cas de fistules, mais ils n'étaient pas au courant que cela pourrait être pris en charge. Malheureusement, les délais de 6 mois ne suffisaient pas, alors que les données qui accourent vers nous démontrent clairement qu'il y a plusieurs cas encore qui attendent, d'où c'était la nécessité pour nous de renouveler ces contrats avec l'IRC, ces contrats de prestations.
Ce financement permettra notamment d'assurer une prise en charge médicale et psychosociale des survivantes souvent confrontées à de lourds traumatismes et à des séquelles durables avec un impact direct sur leur vie quotidienne. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Actualité internationale.
Le Sahel, épicentre du terrorisme, concentre pour la troisième année consécutive près de la moitié des décès liés à ces violences dans le monde en 2025. C'est ce qui ressort du dernier rapport sur le terrorisme publié hier jeudi. En chiffres, près de 5600 personnes ont été tuées dans des attaques terroristes dans le monde l'an dernier, dans une grande partie dans cette bande sahélienne. D'après ce rapport, depuis 2007, le nombre de victimes a été multiplié par 10. Plusieurs pays sont particulièrement touchés. Le Niger et le Nigeria enregistrent une forte hausse d'attaques, tandis que le Burkina Faso reste l'un des plus affectés malgré une baisse récente du nombre de victimes.
L'invité.
La situation sécuritaire en Ituri continue à se détériorer. À la suite de cela, les membres du caucus des parlementaires ituriens ont dénoncé mardi au Palais du Peuple à Kinshasa des attaques meurtrières attribuées aux rebelles des ADF. Pour sa part, la société civile de cette province impute cette insécurité à ce qu'elle qualifie de passivité de troupes ougandaises présentes dans cette province. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi ont débattu de cette question. On les écoute au micro de Jean-Marc Matoki.
Monsieur Samuel Ouketi, coordonnateur provincial de la société civile de la République démocratique du Congo, pourquoi lancer un ultimatum aux troupes ougandaises de quitter la province de l'Ituri?
Je préfère d'abord commencer par, une fois de plus, présenter nos mots de condoléances aux différentes familles qui ont perdu le leur. Nous enregistrons aujourd'hui à Mambasa, successivement, aux environ d'une semaine, les cas de perte de nos compatriotes. À Mouchacha, nous avons perdu 25 compatriotes. Et à Babessoua, nous venons encore lâchement de perdre 11 personnes. Et c'est ce qui nous a frustrés jusqu'à nous amener à faire des enquêtes sur l'activité, sur la mutualisation des forces, n'est-ce pas, UPDF-FARDC. Et cela nous a amené à prendre, à partir des résultats que nous avons sur terrain, ça nous a amené de prendre la position que vous avez suivie, celle de donner l'ultimatum à cette armée ougandaise de quitter l'Ituri, parce que pour nous, leur arrivée en province de l'Ituri, c'était de l'espoir, c'était de constater, de voir sans et là, que la peur et la tuerie contre nos compatriotes ont cessé. Malheureusement, vous savez que sur l'étendue de la province de l'Ituri, nous filons à enregistrer une année depuis que cette force est entrée ici officiellement jusqu'à atteindre le chef-lieu de la province. Et une fois installée, on attendait voir, n'est-ce pas, la poursuite contre les forces négatives, notamment aussi les ADF NAL qui sont des forces étrangères qui dérangent notre population. Malheureusement pour nous, les constats restent vraiment amers.
Alors, monsieur Abdallah Penembaka, vous êtes député national, membre de la majorité présidentielle et notable du territoire de Mambasa, et vous êtes aussi ancien gouverneur de l'Ituri. Vous avez dénoncé la recrudescence de l'insécurité en Ituri. Quels sont les éléments sur lesquels vous vous basez pour justifier votre démarche?
La recrudescence de l'insécurité, c'est depuis le 11, dans la nuit du 11 au 12, que la localité, le village de Mouchacha, la nuit, a été surpris par une attaque de ces agents civiques et des ADF qui pillent, violent et incendient tout sur leur passage. Il y a eu le village de Mouchacha, Mavoufou, Pégué, et dernièrement il y a eu même la RN4 qui a été coupée au niveau de Babessoua. Au-delà de ça, vous devez savoir, monsieur le journaliste, qu'il y a de cela un moment, l'insécurité n'était pas dans une chefferie comme celle de Wallace Caro, Wallace DC, mais ça s'est arrivé à ce niveau-là, et avec une curiosité, sa commune mesure. Alors, c'est tous ces éléments-là qui ont fait que nous puissions élever le ton et rappeler au pouvoir public sur l'obligation de pouvoir protéger la population et ses biens. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation humanitaire catastrophique parce que Nyanya s'est plaint sans aucune assistance ni du gouvernement provincial ni du gouvernement central, encore moins des humanitaires. Mambasa, c'est la même chose. Et vous devez savoir, c'est cette zone où se trouve Okapi. C'est un site du patrimoine mondial qui devrait être protégé. Malheureusement, avec tout ce qui se passe tout autour, il y a risque qu'on puisse encore vivre le pire, comme nous l'avons vécu il y a un certain moment avec Morga.
Nous allons maintenant recourir à vous, professeur Bob Kabamba, politologue et professeur à l'Université de Liège. Quelle est votre analyse sur l'ultimatum de la société civile de l'Ituri qui exige aux troupes ougandaises de quitter la province de l'Ituri.
Permettez-moi dans un premier temps de pouvoir féliciter cette société civile pour pouvoir arriver à essayer de crier haut et fort ce qui est en train de se passer dans cette province. Toute l'attention au niveau international est uniquement focalisée sur Goma et M23, AFC, etc., etc., etc. Et on oublie beaucoup ce qui est en train de se passer dans cette région et ce qu'il faut bien se rendre compte de quoi on est en train de parler. On est en train de stigmatiser l'armée ougandaise en disant qu'elle ne fait pas son travail. Oui, l'armée ougandaise ne fait pas son travail. Il faut se le dire, il faut l'avouer. Il faut que ce soit un fait qui soit accompli, qui soit assumé par du côté congolais. L'armée ougandaise n'est pas venue au Congo pour essayer de stabiliser la zone. Depuis que l'armée ougandaise s'est déployée dans la zone, vous pouvez regarder les différents rapports qui ont déjà été publiés, c'est qu'on a assisté à une augmentation du nombre de morts, augmentation du nombre de déplacés. Et donc l'armée ougandaise n'est pas venue pour stabiliser. Elle est venue uniquement pour empêcher que les ADF ne fassent leur sale besogne en Ouganda.
Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce numéro de dialogue entre Congolais sur www.radiokapi.net, également sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Merci de l'attention accordée à ce journal préparé par Lievin Mwinga, la mise en onde est signée André Mungu. Excellente journée.